de support que vous pouvez chercher dans vos Bibles si vous préférez le lire dans la vôtre, qui est dans Colossiens au chapitre 1. Et je vais d'abord commencer par ma petite introduction. Hop, voilà. Est-ce que à Chambéry, il y a des amateurs de jardinage? Oui, levez la main ceux qui ont un balcon fleuri, un grand potager, quelle que soit la taille. Ok. Ouais, c'est une belle proportion. C'est encore, il y a encore mieux, encore beaucoup à faire, mais c'est une belle proportion. Et est-ce que vous avez... alors moi, je ne vais pas me vanter, je ne suis pas un grand spécialiste de jardinage et je ne vais pas me vanter de mes qualités puisque rien que cette semaine, je me suis fait dégommer la moitié d'une ligne de poireaux par un campagnol. Mais la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup, est-ce qu'il y a des amateurs de jardinage avec enfants? D'accord. Parce que voilà, là, il y a moins de mains. Hein, parce que, en fait, jardiner avec un enfant, c'est passer du merveilleux au tragique. Le merveilleux, c'est de voir leur curiosité qui est insatiable, parce que tout les étonne, leur appétit de comprendre aussi comment ça marche. Et puis leurs yeux ébahis quand on sort une carotte, qu'on la gratte un petit peu et qu'ils peuvent la manger directement, là, c'est juste fabuleux. Et puis c'est tout ce qui fait pour nous la saveur de les voir grandir. Ben, le problème, c'est le tragique. Quand ils vous apportent, avec un élan de bonté et le plus grand des sourires, la plus belle fleur de votre jardin, en ayant naturellement maladroitement arraché tout le pied, et quand pour vous l'apporter, il traverse une zone, en jardinage on appelle ça une planche, que vous aviez méticuleusement préparée, et vous veniez de la semer, et là, c'est tout détruit, quoi. Et là, le merveilleux dans le tragique, c'est qu'en plus, en vous offrant cette fleur, il vous dit « je t'aime ». Et vous avez juste envie de pleurer. Mais vous ne savez pas si vous voulez pleurer par amour pour votre enfant ou par le constat que votre jardin est complètement dévasté. Vous comprendrez bientôt la métaphore de cette introduction, mais sans transition, je voulais qu'on passe au texte. Et donc, nous allons pouvoir... prendre ce texte qui est un peu le support de ce matin. Donc je commence Colossiens 1 au chapitre 15. Ce fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les vins invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, oui, par lui et par lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il est le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré, que toute plénitude est sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Dès maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré la mort, à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établi. Tenez-vous-y fermement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue. Elle a été proclamée par toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. » Ceux qui connaissent leur Bible savent que c'est un best-seller. Ce texte, c'est un tube. Avec Éphésiens 1, en fait, c'est un des textes majeurs de Paul pour présenter la gloire de Jésus. Et c'est un peu plus long que ça, ça commence quelques versets avant et ça finit encore un peu plus tard. Et là, on a une partie même de ce texte qui est rédigée sous une forme d'hymne. Il célèbre le Fils, l'image de Dieu, créateur du monde invisible et de l'univers, rédempteur des créatures et de la création, et tête de l'Église. Alors, je ne vais pas faire l'étude ce matin de ce texte. Je n'en ai ni les compétences, ni la prétention, tellement c'est une mine d'or biblique. On s'en servira seulement de fil conducteur. Et ce fil, je vais le dérouler en trois parties. Au commencement, on va commencer par le commencement, comme dit, c'est le premier mot de la Bible. Et donc, il nous parle de la création. Et puis, on va nous amener à nous interroger sur ce que nous avons fait de cette création et dans quel état elle est maintenant. Et pourquoi ce texte nous dit qu'il a fallu être réconcilié? Et à partir de cette nouvelle, comment réagir? Alors, cela commence par la création, comme tout. C'est celle qui relie, qui englobe tout. Ici, c'est assez, assez marquant, comme le visible, l'invisible sont là. On parle de toutes les créatures. Et finalement, le terrestre n'a qu'une toute petite place dans cette description, parce que Paul, à ce moment-là, veut marquer l'importance de l'invisible, des autorités qui y siègent. Et plus tard, dans les Colossiens, il nous dira même que c'est... Jésus va publiquement les livrer en spectacle, toutes ces autorités. Et cette création, c'est aussi pour bien marquer le lien entre toutes ces créations et la place de Jésus. C'est une des manières que Dieu a pris pour nous parler de lui, en plus de sa parole. Pour le reconnaître, et on trouve ça dans plusieurs endroits dans la Bible, par exemple, le psaume 19, il dit... Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Et donc c'est par une source d'émerveillement que de nombreux scientifiques, de loin pas tous, mais nombreux sont ceux qui, de tous les temps, ont par leur découverte été convaincus de l'existence de Dieu. Ce qui nous entoure est si sophistiqué, si précis, que ça n'a pu être pour eux le fruit du hasard. En astrophysique, c'est l'idée du réglage fin de l'univers, par exemple. Il suffirait qu'une infinitésimale différence, une variation dans les constantes fondamentales de la physique pour que l'univers tel que nous le connaissons ne puisse pas exister. Alors moi, je ne suis pas astrophysicien. J'aime bien les oiseaux, j'aime bien les arbres. Et je constate que c'est très sophistiqué. Vu la taille d'un oiseau, c'est incroyable. D'ailleurs, on n'en connaît pas grand-chose. Sur les arbres, ça fait à peine 20 ans qu'on a compris que les arbres pouvaient communiquer entre eux. Mais on ne connaît rien dessus encore. Pourtant, les arbres, ils étaient là bien avant nous. On a eu le temps de les regarder. Et on ne connaît rien là-dessus. Et tous ces êtres, pourtant, sont si fragiles. Si vous êtes promené en montagne, vous avez vu que... Pour les épicéas, ce n'est pas la fête en ce moment. Beaucoup sèche. Et les oiseaux, vous avez un oiseau dans une main, vous dites, mais comment ce truc-là peut voler à plus de 1000 mètres d'altitude? Il fait 3 grammes. C'est pour moi une des sources d'émerveillement. Et il faut se rappeler aussi que la création, c'est ce qui nous maintient en vie. Pour vivre, je mange de la création, je respire la création, je me soigne à partir de la création, entre autres, mais... Et donc, si cet équilibre, cette fille est réglée par des lois naturelles si bien calées, il ne faut peut-être pas grand-chose pour que un changement et des conséquences sur notre vie humaine. En tant qu'humains, nous nous distinguons de la création puisque nous avons une dignité immense, nous avons une forme de privilège, même si ce n'est pas le bon mot, parce que c'est vraiment que Dieu, dès avant la fondation humaine, la fondation du monde, pardon, nous a aimés. Et il nous aime. Et il nous a créés à son image. Dans Genèse 1, 26, 27, je croyais l'avoir mis en image, mais nous sommes à l'image de Dieu et nous pouvons être en relation avec lui. Nous avons donc une forme d'équilibre qui s'est marquée dans ce monde, qui est, c'est une image un peu simplifiée, mais c'est un peu comme les trois pieds d'un tabouret. Dieu, la création et l'humanité. Le reste de la création, parce qu'on est bien, fait partie bien de la création, et l'humanité. Sachant que là, je les ai mis de la même taille, mais évidemment, Dieu n'est pas du tout de la même échelle. Pour ces idées, là, je m'inspire de choses que vous pouvez trouver dans un livre à la sortie, c'est issu de Dave Buchless, qui est un des théologiens proches d'Arocha. Et le texte plus loin nous parle, dans le texte de Colossiens, nous parle après de réconciliation, et même plusieurs fois dans le verset 20. Et pour qu'il y ait réconciliation, eh bien, il faut qu'il y ait eu un conflit. Il faut qu'il y ait eu une division. On en sait un peu plus dès le verset 21. Vous qui étiez étrangers, ah ben là, voilà la création. Vous qui étiez étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, nous sommes devenus ennemis dès le troisième chapitre de la Bible. Et par complaisance au mensonge du diable, celui qui divise, nous nous sommes séparés de Dieu et nous avons rompu l'alliance. C'est comme si ici je coupais le lien. Adam répond à Dieu qui le cherche. J'ai eu peur et je me suis caché. C'est comme si un pied du tabouret s'écartait. Et qu'est-ce qui se passe quand un pied du tabouret sur lequel on est assis pourrait s'écarter? On se casse la figure. Permettez-moi l'expression, c'est de l'humour léger. Hein. L'homme est alors devenu le casse-pied de la création. Comment cela s'est traduit sur Terre? Un homme qui veut faire sans Dieu et aux dépens du reste de la création. Ce qui est amusant est de voir que ce texte de Colossiens, dans sa partie poème à la gloire du Christ, parmi la sorte un peu d'hymne, comme je l'ai dit, là, parle très peu de l'homme. Bien sûr, et on a des versets précédents de ce passage qui montrent de la façon dont Dieu nous a permis de bénéficier de son héritage, de son salut, de son pardon par son Fils. Mais dans ce passage très homogène qu'on vient de lire, l'humain, c'est qu'un élément de l'énumération, et encore, on n'en parle que dans l'Église. Alors, n'a-t-on pas abusé de notre privilège? Un des travers de l'humain a toujours été de se croire au-dessus du reste. Et notre vision chrétienne de l'histoire est de placer l'humain comme le petit préféré de Dieu. Ce qui n'est pas faux. Nous sommes ses chouchous. Mais pas n'importe comment. Alors, quand on le fait mal, cette position, elle nous amène à deux choses. Croire que nous serons protégés, que les malheurs arrivent d'abord aux autres, mais pas à nous, puisque Dieu est avec nous. Mais attention peut-être de ne pas nous écarter de Dieu, parce que si on a rompu vraiment le lien, on peut toujours compter sur lui, mais il n'y aura plus rien pour nous tenir. Hein. Le pied est définitivement parti. Et puis la deuxième point, c'est d'avoir une position de domination égocentrique sur tout ce qui nous entoure, sans même connaître la richesse de ces choses-là. Comme je disais, on ne connaît quasiment rien de cette nature par rapport à tout ce qui existe. On veut dominer tout ce que l'on croit un peu différent de nous, Certains ont critiqué la domination humaine sur les autres espèces, comme par exemple le philosophe Peter Singer, qui lui a donné le nom de spécisme. Je suis un peu aux fraises avec le suivi de mon PowerPoint, excusez-moi. Donc la fameuse réconciliation. Et comment on a pu s'écarter. Ah, sur mon ordinateur, ça n'apparaissait pas du tout comme ça, donc je vais vous le lire après. Désolé. Donc, on a cette vision d'égocentrisme, mais donc certains ont donné l'idée de spécisme, c'est-à-dire que peut-être que l'homme n'est qu'une partie infime de l'univers, et donc il a aucune prétention par rapport au reste de la création, et donc c'est par opposition. Et bon, ils ont pensé que c'était qu'une espèce parmi d'autres, et qu'il a une valeur égale. On peut appeler ça l'écocentrisme à ce moment-là. Donc ce qui est grisé ici, c'est égocentrisme ou écocentrisme. Et pour nous, chrétiens, on peut aussi préférer une autre vision que... Hop là, pas du... Non, pas maintenant ça. Voilà. Voilà. Ni égocentrique, ni écocentrique, mais théocentrique. C'est-à-dire marquer d'abord notre relation à Dieu, qui nous aide à mieux comprendre notre relation au reste. Retrouver notre juste place devant Dieu, une créature à son image, aimée totalement et digne de porter ce mandat que nous a donné la Genèse, dominer la terre. Alors dominer au sens biblique, c'est pas forcément détruire, profiter absolument de tout. Le mot dominus, il veut aussi dire être le maître de la maison, celui qui gère, celui qui prend soin du jardin de Dieu. Et plutôt que d'être des aides jardiniers de Dieu, aujourd'hui, nous voilà en train de piétiner ces plates-bandes, d'arracher allègrement et parfois sans scrupule, des fois totalement involontairement, mais des fois vraiment sans soucier, toutes les plus belles fleurs qu'on va trouver dans le jardin. Et le comble, c'est que nous, les chrétiens, nous le faisons avec la plus belle naïveté du monde, en disant parfois à Dieu, je t'aime, papa. La destruction à grande échelle a commencé lorsque nous avons trouvé plus d'énergie en utilisant les combustibles fossiles. D'abord pour avoir une vie moins dure, mais aujourd'hui, nous sommes pris au piège car nous nous sommes vraiment drogués au pétrole, au gaz et au charbon. Mais on est loin de comprendre toutes les conséquences de ces choix. Une grande partie de ce que l'on transforme devient un déchet après usage. Au lieu de disparaître, ces déchets viennent nous encombrer, surtout nous polluer, dans l'air, dans l'eau, la terre, ou simplement en des gaz qui vont modifier notre atmosphère et changer notre climat. C'est un résumé très très succinct de ce qu'on peut constater, mais je ne suis pas ce matin pour vous faire un déroulé scientifique. C'était la fresque hier, c'était ce que nous a partagé Sylvain hier. Je rentrerai peu là-dedans. Le constat, c'est qu'on a pillé les espèces, les poissons entre autres, on a détruit les habitats d'autres espèces, ou on les a directement exterminées par des pesticides ou d'autres choses. Et pourtant, déjà, Osée dans la Bible nous prévenait, dès le chapitre 4, « Écoutez la parole de l'Éternel, Israélite, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui y habitent seront abattus. De même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. » C'est étonnant le lien qu'il y a entre des activités humaines et les conséquences qu'il peut y avoir ici sur d'autres espèces qui n'ont rien à voir. Et rappelons-nous que Osée disait ça aux Israélites, tel que c'est marqué sur la première ligne. Donc des gens qui croyaient en Dieu. Et dans quelle finalité a-t-on fait tout ça ? Consommer la plus grande partie de ce que nous consommons n'est pas indispensable et pas vraiment utile. La plupart, beaucoup de choses servent à nos loisirs, à des plaisirs, parfois totalement superficiels, qui souvent ne sont même pas bons pour nous. Pensons au sucre. On est très loin de Paul qui disait à Timothée, « Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Mais ceux qui sont décidés à devenir riches tombent dans l'épreuve, dans un piège et dans beaucoup de désirs stupides et pernicieux qui plongent les gens dans la destruction et la perdition. Des choix de vie que l'on a cru bons dans notre société, peut-être il y a 50 ou 100 ans, et qui se révèlent être totalement des pièges aujourd'hui. Et nous avons à sortir de ce piège en agissant sans plus attendre. Si nous n'agissons pas rapidement et radicalement, ce sont nos modes de vie, notre sécurité alimentaire, notre capacité à nous chauffer, la guerre, la paix, qui sont en jeu à moyen terme et peut-être relativement à court terme. De plus en plus de personnes ont conscience qu'il y a un problème, mais peu de gens réalisent vraiment la gravité de cette crise et la difficulté d'y remédier. Il y a encore beaucoup de personnes qui croient que l'on va pouvoir s'en sortir avec simplement quelques prouesses technologiques, mais les prévisions des spécialistes sur le sujet sont beaucoup moins optimistes. En revenant au texte de Colossiens, il devrait nous donner de l'espoir. Le destin de Jésus et le destin de toute la création sont intimement liés. Lors de son retour et à partir de ce qu'il a fait, Christ est celui qui va guérir cette création brisée. Il n'a pas seulement réconcilié des êtres humains, toi et moi, avec le Créateur, mais c'est à toute la terre qu'il donne la paix. Dans l'œuvre de la croix et la résurrection de Jésus, le renouvellement de toutes choses a déjà commencé. Je vais préciser un petit peu le mot renouvellement, parce que certains pensent que nous pouvons tout détruire, puisque Jésus va revenir et tout recréer à partir de zéro. Je ne rentre pas dans les débats théologiques qu'il y a derrière, parce que ça remet en cause toute l'eschatologie. Mais premièrement, bon, ce n'est pas forcément si évident que ça va repartir à zéro. Et surtout, à aucun moment, il nous a donné une autorisation que c'était à nous de détruire. La destruction, c'est quand même l'œuvre du diable. Et notre commandement, c'est de lui résister. On peut se poser la question de pourquoi agir ? Bon, pas pour gagner notre salut, puisque c'est par notre foi. Pas non plus pour sauver la terre, Sylvain l'a dit hier, et on l'a lu ce matin dans notre texte. C'est pas nous qui allons sauver, c'est Christ qui réconcilie par lui et pour lui toute la création. Mais par contre, par amour pour notre prochain, je n'ai pas le droit de lui laisser subir les conséquences des actions que j'ai engendrées sans réagir, ou que mes aïeux ont engendrées, puisque ce n'est pas forcément nous personnellement. Il faut savoir que les pays riches sont une grande majorité responsables par leur utilisation des énergies fossiles depuis très longtemps. Ce que n'ont pas fait beaucoup de pays pauvres dans le monde et qui aujourd'hui en subissent les conséquences. Nous avons la certitude et l'espérance que Jésus lui va revenir. Il peut revenir aujourd'hui ou demain ou dans plus de 2000 ans. Nous avons donc la responsabilité de nous préparer à toutes ces hypothèses. Avoir un cœur propre si c'est tout de suite, mais aussi, si c'est plus tard que demain, ben en attendant, nous avons deux commandements. La responsabilité d'aimer Dieu, Donc peut-être de respecter son jardin, sa création. Et puis la responsabilité d'aimer notre prochain. Notre prochain, c'est notre voisin, qu'il soit de palier ou à l'autre bout du monde. Et je n'ai pas le droit de lui faire porter les conséquences, telles que je viens de le dire, des choix de mon pays, aisés sur ceux qui sont plus pauvres. Et c'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui. C'est à Mayotte qu'on a le cyclone. Ce sont les Ouïghours, parfois prisonniers, qui fabriquent de mes vêtements. Et notre prochain, c'est aussi ceux qui viendront prochainement. Je rebondis sur deux faits d'actualité, hein, c'est tout, je ne sais pas pour exposer. Donc, notre prochain, c'est aussi ceux qui viendront prochainement, les générations suivantes, et pendant plus de 2000 ans, si Dieu le juge nécessaire. Et donc, notre devoir dans l'amour de notre prochain est de laisser une planète qui soit vivable pour des générations qui vont suivre. Alors, comment agir ? Que faire ? Prier, bien sûr. Et j'en profite pour dire qu'à ce titre, Arocha propose chaque jour une petite prière pour la création. J'y reviendrai plus tard. Rendez-vous à la sortie. Dieu peut-il tout changer ? Si on prie, c'est qu'on attend que Dieu change les choses. Assurément, il peut changer les choses. Il est capable de réduire le CO2 en un claquement de doigts. Puisqu'il a fendu une mer en deux, ça ne devrait pas lui poser de soucis. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un miracle ? Ce n'est pas forcément l'avis des scientifiques, puisque bien sûr, eux, leur travail, c'est de chercher des solutions possibles autres que par la foi. Et donc, il s'avère, si on les écoute, que si nous décidons de changer tout de suite, de façon profonde, il serait possible de limiter la casse. Les conséquences de ce qui est déjà enclenché, ça peut se réduire. Bien sûr, on ne fera pas revivre une espèce qui a disparu, mais on peut au moins arrêter l'hémorragie. Dieu nous a donné aussi, par sa grâce, les compétences pour pallier à nos propres bêtises. Et le témoignage de tout à l'heure montre qu'il a même donné ça à la grâce de gens qui ne croyaient pas en Dieu, puisque c'est son patron qui parlait de miracle. Dieu a-t-il envie de faire ce miracle ? Eh bien, je ne suis pas convaincu de ça, personnellement. En tout cas, qu'il le fasse aujourd'hui. Tout simplement parce que le cœur de l'homme n'est pas encore résolu à changer sur ce sujet. Dieu ne nous a jamais refusé de nous aider lorsque nous reconnaissons nos torts et que nous décidons de changer. C'est le principe de la repentance et de la conversion. Jonas et les Ninivites en savent quelque chose. Mais si rien ne change, pourquoi faudrait-il que Dieu intervienne ? Si vous demandez à votre médecin de vous guérir d'un cancer du poumon et que vous continuez à fumer par choix, à quoi bon ? Alors prions, oui, mais prions pour que les gens changent, pour que les humains fassent les bons choix, en passant de leur vie égocentrique à une conversion pour mettre Dieu au centre de leur vie. Et je parle de moi aussi. Et là, finalement, en faisant cette prière, on constate que protéger la planète ne nous éloigne pas de l'annonce de l'Évangile, qui est souvent un reproche qu'on fait en disant « bah oui, mais notre première mission, c'est de parler de Dieu. » Ben oui, justement. Justement. Mais cela va nous demander une profonde repentance. Parce que si nous avons l'assurance que Dieu... Et nous avons l'assurance que Dieu nous écoutera. Il y a un verset que je trouve assez fabuleux, parce qu'on le connaît tous quasiment par cœur, mais on n'a jamais vraiment... Parce qu'il y a un chant qui va avec, pour les plus anciens... Et pourtant, on n'a pas forcément pris conscience de ce qu'il y avait dans la fin de ce verset. 2 Chroniques 13, 14. Nous sommes juste après la bénédiction du temple de Salomon. Et Dieu annonce que, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux criquets de dévorer les pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses voies mauvaises, moi, je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Comment guérir un pays ? Comment agir ? Je pense que chacun de nous, en ouvrant sincèrement les yeux, comprend que ce n'est pas en faisant pipi dans la douche que l'on limitera la casse, ni en roulant dans une voiture électrique si elle est construite avec 3 tonnes de matériaux rares. Alors, première chose, peut-être ne pas se cacher derrière notre petit doigt. Nous, moi, enfin vous, nous devons tous être acteurs de ce changement. Je vous ai parlé de l'épître à Timothée tout à l'heure, où Paul encourage d'abord à vivre simplement. Mais ce n'est pas que uniquement individuellement que ça pourra marcher. Les dirigeants ont leur cap à donner et leur cadre à donner quand les gens ne suivent pas le cap. Les entreprises peuvent le faire par leurs propositions et les individus par leurs choix quotidiens. Protéger l'humain sur Terre ne pourra passer que par des actions individuelles et des actions collectives. Et de comment agir sur le collectif ? Ça commence par votre carte bleue, ça commence par votre bulletin de vote. Bien sûr, comme c'est un sujet qui nous remet profondément en cause, parce qu'il va toucher notre façon de manger, notre façon de nous voyager, de nous transporter, il touche notre façon d'habiter même, tout finalement, et profondément notre confort en particulier, et les choix de notre société, eh ben, je ne vous le détaillerai pas ici. Parce que ça prend un certain temps de chercher des solutions adaptées à notre situation. Mais d'autres l'ont très bien fait, et on peut leur faire confiance, même s'ils ne se présentent pas comme des gens chrétiens. Il faut chercher un peu, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui essayent de rester dans leur confort, donc de ne toucher à rien. Mais chercher, on trouve assez facilement, et souvent on a envie de tourner la page quand on voit ou de changer de chaîne, mais on peut les écouter quand même. Et je voudrais seulement vous encourager à vous interroger sur la nécessité des choix dans votre vie et comment nous indigner et comment vous engager. Aujourd'hui, c'est super parce que l'église est pleine et hier, il y avait beaucoup moins de monde. Ça montre déjà comment les chrétiens se sentent concernés par le sujet. Aujourd'hui, vous n'avez pas trop le choix, c'était le culte. Donc je suis bien content d'avoir pu parler ce matin. Je ne pourrais pas dire que vous ne l'avez pas entendu. La première fois que je suis rentré dans cette église, hier, c'était par la petite porte, puisqu'on venait installer les équipements pour la fresque. Et en rentrant par la porte, la première chose que j'ai vue, c'est le verset qui est affiché au fond. Je pense que vous l'avez tous vu, vous le connaissez. Arrêtez. Et reconnaissez que je suis Dieu. Ce verset, pour moi, c'est un de mes préférés, parce que je trouve que c'est un de ceux qui illustrent mieux la situation du monde telle qu'on la vit aujourd'hui. Et si on s'arrêtait et qu'on se mettait à réfléchir un petit peu sur notre façon de vivre, même si on est dans une société qui fonctionne comme ci, comme ça, on peut partir à contre-courant. Les chrétiens n'ont jamais eu peur de partir à contre-courant. C'est ce que même Jésus leur demande spirituellement. Et ce verset, il est d'une actualité brûlante. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Et je pense que ça peut être notre prière demain, pour la fin de ce temps. Seigneur, nous voulons te demander de nous éclairer sur les choix à faire dans notre vie. de nous donner la le cœur pour prendre soin de ceux qui sont le plus touchés, que ce soit à côté de chez nous et que ce soit beaucoup plus loin. Nous allons tous être impactés par des choses qui arrivent sur cette terre et en tant que chrétiens, nous ne savons pas quoi faire de ça. Souvent, c'est des choses qui nous touchent dans notre espoir parce que ce sont rarement des bonnes nouvelles. Alors Seigneur, je veux nous confier en toi pour que nous gardions l'espérance en toi tout en ayant la lucidité de savoir que rien ne se fera sans nous au départ. Seigneur, donne-nous la motivation pour agir et d'abord pour nous arrêter et te reconnaître comme notre Dieu et notre Sauveur au plus profond de notre cœur. Amen. Sans transition, je vous ai parlé de la prière. J'ai mon petit carton qui est là. Oh, au fond, il y a une table dédiée à Rocha avec quelques livres. Et dans les outils que peut vous proposer à Rocha, à la fois pour prendre conscience, alors il y a la newsletter qui parle effectivement d'Arocha. Ce sont les activités qui peuvent se passer à droite, à gauche, ou ce qui s'est fait. Et puis, il y a la prière pour la création, qui ne parlent quasiment pas d'Arocha, qui sont des sujets de prière tous azimuts, j'ai envie de dire. Ça peut être pour des choses qui se font au niveau de la conservation d'espèces, ça peut être simplement pour nous informer, ça peut être pour prier pour la COP, les fameux rassemblements où ils parlent du climat. Ça peut être pour prier pour des PDG d'entreprises d'hydrocarbures, parce qu'ils ont aussi besoin de nos prières pour faire les meilleurs choix. Et donc, il y a un petit flashcode où vous pouvez le faire en vous inscrivant directement sur le site Arocha. Ça peut être envoyé soit sur une page Facebook, soit en mail. Et puis, dans les autres outils, sinon, on a quelques livres qui sont très, très différents. Il y a des témoignages, qui sont à la sortie. Donc, et qui sont à vendre, oui, me fait remarquer ma femme. C'est pas en distribution gratuite, il y a bien les livres à vendre. Sur le programme, sur le site internet, parce que les brochures ne sont pas encore imprimées pour cet été, sur le site internet, vous pourrez aussi trouver toutes les activités que fait Arocha, comme des séminaires, des séjours, ça commence en avril, je crois, pour cette année. Il y a aussi si on veut pas se déplacer, parce que c'est vrai que ça peut être aussi un moyen de dire est-ce que ce déplacement est utile et indispensable. Eh bien, il y a aussi des webinaires, des choses qu'on peut faire des soirées Zoom où il y a des sujets qui sont abordés. Des sujets comme l'obsolescence programmée, comment agir au quotidien chez soi, voilà, très largement. Et donc vous pouvez nous en parler à la sortie. Voilà. Merci beaucoup.
On va prendre un chant qui...